Le 24 avril prochain sortira enfin Ne coupez pas de Shinichiro Ueda, qui est un film qu'on a découvert en avant-première, notamment au PIF, à Kinotayo, où tu l'as vu, Marc. Est-ce que tu peux
Absolument.
nous présenter, sans spoiler, le premier film japonais?
Voilà, donc il s'agit d'un premier film au budget assez dérisoire. L'histoire commence dans un entrepôt où plusieurs personnes se retrouvent menacées, enfin tournent un film et se retrouvent menacées par des zombies tout d'un coup qui sortent un petit peu de nulle part. Et donc, c'est filmé en plan séquence caméra épaule, les gens qui se retrouvent à la merci de zombies qui ont l'air assez loquaces, mais parfois assez dangereux tout de même. Et donc, on va suivre les pérégrinations de ces comédiens qui sont poursuivis par ces zombies.
Il faut
Voilà.
dire qu'ils tournaient un film de zombies à la base.
Absolument, puisque effectivement,
Non, mais
ils
c'est
étaient là,
compliqué.
ils étaient dans l'entrepôt pour
Voilà.
tourner un film de zombies.
Voilà.
Et la fiction devient réalité.
Voilà.
Oh.
Et ce qu'on peut dire, c'est ne partez pas au bout. Enfin, pendant cette première demi-heure et ce plan séquence, une surprise que l'on ne va pas dévoiler ce soir vous attend et pourra éventuellement récompenser le spectateur, Marc.
Une chouïe, parce qu'il y a un côté c'est très amateur, très filmé, avec des bouts de ficelle. Derrière, vraiment,
Juste ça.
ça ressemble pas, ça ressemble vraiment au pire film amateur possible. Sauf que il y a une raison.
J'ai vu pire.
Ouais. Ah, donc.
Toi aussi, en fait.
Mais en plus.
Moi, je trouve que c'est bien filmé, en tout cas. Enfin, la première scène, franchement,
Non,
c'est
mais
quand même
le plan
une sacrée
séquence,
prouesse.
il fonctionne parfaitement,
Ouais, il
moi, je
fonctionne
trouve.
parfaitement.
Avec des petits moyens, je trouve qu'il est quand même assez malin, bien foutu. Et puis, on aura, comment dire, un autre aperçu, un
Mais
autre regard, un autre point de vue sur
ça
l'histoire.
frise quand même
Voilà.
l'amateurisme, avec des rebondissements, un peu des enchaînements de scènes assez étranges.
Du coup, moi j'ai pris
Oui.
cette première partie comme une sorte de parodie de film
Oui.
à petit budget, donc ça passait assez bien. Et après, la deuxième partie, effectivement, a quelque chose de très
En tout
malin
cas,
comme commentaire sur ce
pour
film.
les gens
Commenter
qui ont
une
l'impression de
relecture
suivre.
aussi de ce qu'on vient de voir, c'est ça qui est vraiment intéressant, quoi.
Mais effectivement, je trouve qu'il y a un côté pastiche qui est très attachant et qui fait que même si, bon, effectivement, il y a des maladresses dans cette première partie, c'est pas quelque chose de rédhibitoire, c'est plutôt quelque chose qui, justement, va donner un petit peu de profondeur, faire qu'on va s'attacher encore plus à ces personnages. Bon, ça fonctionne plutôt
Oui, mais
bien.
moi je disais parce qu'à Kinotayo, il y a des gens qui ont
Ça.
quitté la
Oui,
salle et
ça.
qui ratent le
Bien
sel
sûr.
de la chose par rapport à ce qui va se dérouler après. Donc c'est pour ça que je précise bien,
Ne quittez
ne
pas.
pas, ne
Voilà.
partez pas
Ouais.
malgré
Ne coupez pas.
C'est
les bouts
ça.
de ficelle, ça a l'air fait avec trois fois rien. Il y a quelque chose qui se passe qui justifie tout ça. Faut rester.
Voilà, bon, on va passer rapidement au deuxième film japonais que vous pouvez trouver encore en salle actuellement, qui est Dragon Ball Super, deux points, Broly. On a un spécialiste de Dragon Ball Super ici, Kefren, tu
Ah
vas nous en
bonjour.
parler après.
Ah.
Ah bah t'as vu les 132,
128.
128 épisodes. Mais on va laisser Justin nous présenter ce nouveau film de Dragon Ball avant.
Oui, donc c'est une relecture du personnage de Broly qui devient un peu canon dans la mythologie Dragon Ball, vu qu'il y avait eu un film dans les années 90, vu que tous les films des années 90 étaient hors continuité de la série officielle ou du manga. Donc là, vu que c'est resté un personnage très populaire dans les années 90, ils ont fait deux suites de films où ils le ressuscitaient, ils le ramenaient, parce que c'est un personnage qui est resté très populaire. Donc là, c'est une manière de l'introduire dans l'univers de Dragon Ball à travers ce qui s'est passé après la série Dragon Ball Super. Donc la première partie, c'est la plus intéressante du film, la première heure, c'est une sorte de relecture du téléfilm qu'il y avait eu dans les années 90 aussi, Badak contre Freezer, donc où on découvre un peu la vie quotidienne des Saiyens sur la planète Vegeta. Et donc on découvre les origines de Broly, qui est le fils d'un général Saiyan qui s'avère avoir une puissance phénoménale, qui est le Super Saiyan légendaire qui est attendu dans la mythologie Saiyan. Et donc, qui s'avère avoir une puissance supérieure à Vegeta, qui est supposé être le successeur.
Vous êtes très peur à Vegeta dans le temps,
Voilà.
maintenant un peu moins.
Voilà. Donc, il est supposé être le successeur et qui va se retrouver exilé sur une planète perdue pour pas faire de l'ombre à Vegeta. Et donc, ce qui se passe dans le film, voilà, la planète, on le retrouve parallèlement à la destruction de la planète Vegeta, on le retrouve après les événements donc, de la série Dragon Ball et autres. Freezer, en cherchant les nouveaux combattants, va retrouver Broly et va le ramener sur Terre pour se battre contre Son Goku et compagnie. Donc ça, c'était la première heure qui est passée, même si ça vaut pas le téléfilm Badak contre Freezer, mais c'est quand même intéressant par rapport à la manière dont il revisite et le personnage, il le réintègre, c'est plutôt pas trop mal fait. Il y a même quelques scènes, on découvre la mère de Son Goku qu'on ne voyait pas dans la série ou dans les films originaux. Il y a une scène un peu à la Superman avec les adieux des parents quand il l'envoie sur Terre. Donc il y a quelques petits moments comme ça intéressants. Le problème, c'est quand Broly arrive sur Terre. Alors, je vais juste sauver un truc. Il y a eu un effort formel au niveau des scènes, au niveau de la 3D, des effets un peu psychédéliques dans les scènes de baston. Ils ont essayé de renouveler un peu. C'est un film d'animateur quand même. Essayer de renouveler un peu par rapport à ce qu'on tout venant de les bastons qu'on a l'habitude de voir dans Dragon Ball. Sauf que, bon, problème Dragon Ball, souvent ceux qui n'aiment pas, leur résumé, ça sera c'est que de la baston, c'est chiant, et autres. Alors que, malgré tout, Toriyama, c'est un bon narrateur, avant qu'il y ait cette fameuse baston qui n'en finit pas, il introduit des thèmes, il introduit quand même de l'émotion, il arrive à avoir des idées narratives avant d'arriver à ces scènes épiques de baston. Donc là, c'est le néant complet avant d'arriver à ça. Au niveau dramaturgie, c'est zéro. Il n'y a vraiment aucun intérêt, aucune implication. Si on vient pour du badaboum, d'accord. Mais voilà, niveau intérêt cinématographique, d'être impliqué ou quoi que ce soit, c'est le néant. Quoi. Voilà.
Kefren, zéro intérêt cinématographique.
Non, mais justement, il vient de me dire pourquoi c'est intéressant. C'est parce que c'est un film d'animateur et que justement, le seul angle pour lequel il pouvait justement réanimer Dragon Ball, c'était en apportant l'animation psychédélique et toutes ces expérimentations durant les combats. Parce que sinon, de toute façon, les films Dragon Ball, même des années 90, il n'y a rien au niveau dramaturgique. C'est juste 30 minutes d'histoire et après une heure de baston. De toute façon, ça a toujours été ça.
Mais même le premier film Broly qui est du Badabou aussi, comme ça, il y a un peu plus de tension dramatique que.
Ça, c'est parce que t'avais genre 12 ans.
Mais oui, c'est ça, je veux dire. Regardez les films Dragon Ball, c'est ça. Même genre Bojack, des trucs où t'es censé avoir l'implication, par exemple, avec Bojack ou parce qu'il y a Son Gohan qui se bat contre lui. Et il refait le Kamehameha Perfis et tout. C'est soit du rip-off des épisodes que t'as déjà vu, soit juste de la baston sans
un. Mais là, tu es super bien animé. Tu me dis juste que les films des années 90 n'étaient finalement pas terribles. Et tu me dis pas
si, visuellement, ils étaient intéressants.
Ils étaient intéressants parce qu'ils avaient les moyens du cinéma pour animer les combats de Dragon Ball, pour mettre en scène justement ce qui est le set Dragon Ball, c'est-à-dire les combats et les affrontements. C'est le cas encore une fois dans ce film là, et dans ce film c'est intéressant parce que ça vient après Dragon Ball Super qui est genre l'essorage de la mythologie Dragon Ball, et le seul moyen pour eux d'apporter de nouvelles idées c'est de les apporter graphiquement, parce que technique en termes de narration ils peuvent rien faire depuis, ils sont déjà allés
au moule. Le seul truc nouveau c'est le truc psychédélique, mais ça dure quoi? Ça dure
Il y a trois différents animateurs dans le film, ouais. Et en fait chacun a sa partie dans
mais le côté psychédélique c'est vraiment sur la touche, c'est vraiment sur la. Ça dure 10 minutes, ça dure 10 minutes, un quart d'heure.
Même pas. En fait, à chaque fois qu'il y a un nouvel animateur, il fait.
Il a un peu son truc. Il a un peu son style dans notre truc. Mais justement. Mais ça permet de sortir du style de Toriyama qui justement apportera un peu jusqu'à l'asphyxie, jusqu'à la fin de Dragon Ball Super. On est arrivé là, on peut rien faire de plus. Bah si, on peut faire ça, je te vois.
Et puis ils vont jusqu'à rejouer certaines scènes des autres OAV, quoi. Il y a le truc fusion là. On l'a déjà vu cette scène là dans les OAV avec Janemba, etc. La même scène, ils refont la même scène.
Et puis un autre gros problème, c'est-à-dire il y a un petit effort effectivement sur un baston, mais par contre le reste du film visuellement. Ah oui, c'est catastrophique. C'est-à-dire, on sent que c'est le stagiaire philippin ou coréen, la sous-traitance.
Et respecte.
C'est-à-dire que. On voit la sous-traitance de la sous-traitance. C'est-à-dire, il y a des scènes, je me souviens, avant la fameuse scène de fusion, il y a un champ contre champ entre Vegeta et Son Goku. D'un plan à l'autre, Vegeta, il n'est pas dessiné pareil. Il a une tête, il y a le contre champ, il est dessiné différemment. C'est-à-dire, il n'y a même pas une continuité dans la même scène. On sent que. ce qui concernait pas la baston, c'est pas fini, quoi.
C'est un peu le projet quand même au film, le fait qu'il n'y ait pas de maîtrise entre les différents animateurs et que ce soit plus un film où il y a effectivement trois animateurs qui se font plaisir sur... Allez, 6 minutes dans le film, c'est ça, enfin, le film dure...
La baston, elle dure...
45 minutes.
Ouais, elle dure...
Mais le partie psychédélique, elle dure 10 minutes.
J'ai calculé par le truc, quoi, la baston dure 45 minutes, et vraiment, ça dure 5 minutes, hein, quand je me suis dit...
il n'y a pas que le truc psychédélique, il y a tout
le reste. C'est le truc qui est nouveau.
C'est chiant, quoi, le reste, c'est chiant, quoi.
Bah, vous aimez pas Dragon Ball?
Bah si,
si, mais quand c'est bien introduit, quand...
Non, on est trop vieux pour Dragon Ball, à vous.
Non, parce que moi j'ai apprécié Dragon Ball Super, c'est qu'on n'est pas beaucoup apprécié. Moi, il y a des arcs que j'ai trouvé plutôt... L'arc Zamasu, je trouve que c'est un des meilleurs arcs toute série confondue de Dragon Ball,
moi j'ai trouvé ça bon. En disant que c'est mal écrit, mais c'est bien écrit, Dragon Ball Super.
Donc c'est même pas le fait que je trouvais ça mieux avant, mais même dans Dragon Ball Super, il y a des choses plus intéressantes que ce que j'ai vu là.
Parce que la série originale, je veux dire, elle est quoi, c'est à chier.
Récemment, je suis tombé sur les épisodes de Dragon Ball Super, comment dire, quand il y a les méga tournois où ils sont 50 000 à se foutre sur la gueule, là. L'animation, j'ai rarement vu un truc aussi laid de ma vie. Mais vraiment. C'est de l'amateurisme à plein nez, quoi. C'est pas possible quand on arrive à ce niveau, quoi.
Mais c'est pour ça qu'ils peuvent utiliser les moyens du cinéma, effectivement, pour rehausser l'animation. Après, moi, c'est plus le fait que, effectivement, le film qui commence sur la planète Végéta nous promet un espèce de souffle épique, comme ça, en racontant l'origine de la planète, la destruction, on reste longtemps. Et finalement, cette promesse, elle disparaît complètement au bout de 15 minutes de film pour nous ressortir en fait des choses qu'on a déjà vues une bonne dizaine de fois et qui font plaisir aux fans qui en demandent
pas plus. Sans les Dragon Ball.
Mais oui, mais justement, pour renouveler
la franchise, c'est graphiquement...
il faut avoir une ambition supérieure en termes de narration, en termes épique, et c'est ce que moi j'attendais du film.
Qu'est-ce que tu veux raconter de plus dans Dragon Ball de toute façon?
Tu veux toujours raconter des choses nouvelles, c'est-à-dire on ne peut plus rien raconter.
Non mais ils ne vont pas réinventer Dragon Ball avec ce film, et surtout le film n'a pas cette ambition, surtout quand il vient après la série. Quand il vient après la série qui justement a essayé de faire des trucs et que tout le monde a défoncé. Par exemple, la film Broly qui est une mauvaise idée, mais au moins ils ont essayé de faire des choses.
Par exemple, si on parle des films, dans les films récents, Battle of God, je trouvais beaucoup plus intéressant avec, comment il s'appelle, Virus, l'introduction de ce personnage-là. Non, mais au niveau du fond, pas la forme, hein, mais je parle de ce que ça racontait, c'était plus intéressant que là.
On va clore ce débat sur...
Ouais, j'ai
on a déjà fait un podcast spécial Dragon Ball, du coup, je crois qu'il y avait personne à table.
Il y a des gens tout seul en fait.
C'est ça. Il y avait Yannick, il y avait Olivier Smash qui...
Ah oui, ça date.
Et Julien Tialon, voilà.
Ça date.
Je crois que c'est le podcast numéro 3 ou 4, donc là on est au 58. Du coup, on va rester dans le Club Dorothée.
Ouais.
Et on va parler de l'adaptation française par Philippe Lachaud. Enfin, l'adaptation. On va parler d'un film de Philippe Lachaud qui s'appelle Nicky Larson et le parfum.
C'est la
Cupidon. Martin, est-ce que tu peux nous présenter le film brièvement?
Ah, brièvement, oui, parce que j'en ai assez peu souvenir, et fort heureusement. Si je veux trouver un bien, donc City Hunter, donc Rio Seva, mais qui est ici Nicky Larson, donc en gros est dépêché pour trouver, comment dire, un sérum qui permettrait de draguer toutes les gonzesses, quoi. En gros, c'est à peu près ça, quoi.
Enfin, de séduire.
C'est la personne qui s'enduit de ce parfum, dans ces cas-là, attire la première personne qui, je crois, croise son regard ou quelque chose comme
et
ça.
Et qu'il touche.
Et voilà, exactement. Et donc, après, s'ensuit un certain nombre de péripéties avec Eura, Mammouth et une bande de vilains et des canards.
Comment tu dis vilains?
Des vilains et... donc voilà, écoutez, que dire de plus, si ce n'est que voilà, il s'est fait plaisir, il s'est un bon fanboy du Club Dorothée, il a 40 ans, il a de l'argent, il a du succès, il a arraché la licence et il s'est fait, il s'est fait la tête de Nicky Larson, enfin du moins il y croit. Après, je pense qu'il a été crédible à la Japan Expo pour un concours de cosplay. Au cinéma, c'est une autre chose. Après, il faut pas non plus cracher trop dans la soupe, dans le sens où il a quand même fait appel à une seconde équipe pour les scènes d'action. Et on s'attendait à une grosse merde. Et à un moment, il y a quand même deux séquences qui sont à peu près torchées correctement. Le reste, ce sont voilà, une avalanche de gags sur à peu près... on peut rigoler à peu près à 15%, ce qui est déjà beaucoup, comment dire,
quand on... il a fait un calcul, en fait.
Voilà, calcul scientifique, exactement. Voilà, exactement. Et je suis très optimiste, et bon, voilà, c'est déjà pas mal pour un film de la show, parce que quand même, généralement, c'est quand même assez navrant ce qu'il fait. Donc voilà, lui, il n'est pas crédible pour un sou. Sa compagne, elle roule le rat, ça va. Mammouth, bon, il fait deux têtes de moins. Et bon, voilà, la mise en scène, il n'y en a pas. La photo est dégueulasse. Que dire de plus c'est-à-dire le côté, comment dire, un peu dramatique, notamment la relation avec son ancien collègue qui se fait tuer, tout ça. Là, ça passe pas du tout. C'est-à-dire qu'il est incapable de vraiment faire des. De passer du drame à la comédie. C'est quand même. C'est une comédie navrante. Voilà, faut dire ce qu'il y a. C'est là-dessus, vraiment, c'est un joueur français très franchouillard aujourd'hui. Et là-dessus, il excelle. Et voilà, et il nous en fait encore la preuve.
Oui, c'est vrai. Enfin, moi, du coup, Justin, tu vas peut-être un peu défendre le film.
Mais... je t'accompagne, Justin. Je t'accompagne, allez, la team.
Je l'ai vu après vous. Et après, disons, le fait qu'on pouvait s'attendre à pire. Mmh. C'était
ça ce qu'on disait. Mmh. On n'a jamais dit que c'était voilà. Un chef-d'œuvre. On s'est dit, oh, mais on s'attendait à pire.
J'ai vu les autres films de la show et j'ai pas vraiment vu la différence, par exemple, avec. Dans Babysitting, il fait du sous Very Bad Trip. Là, finalement, il fait du sous Paul Craig, c'est-à-dire de la comédie d'action américaine avec des personnages et des clins d'œil au Club Dorothée, à la génération Club Dorothée, avec un humour qui n'est même pas de l'humour. Parfois, c'est juste en fait, des clins d'œil qui on est censé rire, mais c'est juste du name dropping et des références qui sont lâchées comme ça.
En fait,
comme Ready Player One, si tu veux, j'aime pas trop Ready Player One, mais c'est pas.
Enfin, c'est quand même un peu.
C'est quand même le pivot, quand même.
Non, mais je suis d'accord avec toi, Victor, en fait, sur le fait que le niveau n'est pas forcément plus élevé que ses précédents films. Et moi, ça fait. Depuis que je l'ai vu, en fait, ça fait un mois et demi que je répète que ce film est mauvais, mais que je l'aime bien quand même. Et j'ai conscience, en fait, qu'il est à chier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Parce que pour le coup, non mais pour le coup, la nostalgie en fait a marché sur moi. Mais j'ai conscience en fait que c'est pas du tout un grand film. C'est juste que j'ai pris mon pied pendant une heure et demie. Et après en sortant, je me suis dit bon, oui, c'est pas génial. Mais ça a fonctionné sur moi.
Le running gang sur les canards est très bien, c'est tout. Voilà.
Ah, mais t'as un truc avec les canards,
ouais. Ouais.
C'est
bon, voilà.
Tout à l'heure.
J'ai envie de
conclure sur. Oui, sur en fait, le plus gros problème du film pour moi, c'est qu'il court trop de lièvres à la fois. Il veut satisfaire. Il veut satisfaire les amateurs de City Hunter, le manga, de City Hunter, l'animé japonais, de Nicky Larson, la version un peu détournée Club Dorothée. Il veut satisfaire aussi ses fans de ses précédents films.
Il y en a.
Donc du coup, ça marche en salle. Donc oui,
ça marche très très bien.
Donc en fait,
d'ailleurs,
ça rapporte.
Continue, mais après j'aurai une question pour toi, Victor.
Et donc le plus gros problème du film, c'est tous ces lièvres à la fois qui courent. Donc du coup, pendant le film, voilà, ça passe d'une cible à l'autre et puis ça fonctionne pas forcément. Par rapport au matériau original, le plus gros problème, en tout cas, c'est le côté polar urbain. Ça, c'est complètement le. Parce qu'il y avait moyen de faire un. Bon, Paris, c'est pas Shinjuku, mais il y avait moyen de retranscrire ce genre d'ambiance. Voilà, Psgal, par exemple. Il y avait moyen de retranscrire ce genre d'ambiance dans Paris aussi, dans une version française. Donc ça, c'est raté. Par contre, le truc où je suis pas d'accord, c'est que. On sent que la show, c'est un fan. C'est-à-dire, il y a des éléments, quand on a lu le manga City Hunter ou quand on a vu l'animé en japonais, il y a des éléments spécifiques où on voit qu'il est fan, qu'il a introduit. Et moi, je trouve les deux personnages, c'est-à-dire autant dans l'action, il n'est pas forcément toujours crédible, mais par contre, dans l'interaction entre Ryo Saeba, Nicky Larson et Laura, franchement, moi, je trouve que ça fonctionne. C'est vraiment le cœur du film et ça marche vraiment bien. Leur relation, quand ils se chamaillent, tout ça, pour moi, j'ai retrouvé. Que j'appréciais dans l'animé par rapport à ça, et il y a des éléments spécifiques qu'il a repris.
Et dans le fond, alors
dans la...
On a beaucoup parlé du fond.
Parce que non, j'ai pas vu le film, donc je pose la question.
Oui, bah, dans le fond, bah,
le fond homophobe, etc.
Non. Ah, en tout cas, pas, c'est pas sur celui-ci que je lui reprocherai ça, pas dans celui-là. Bah, peut-être dans d'autres de ses films. On peut discuter dans d'autres de ses films, mais celui-là.
Non, mais oui, je me rappelle, oui, il y avait une scène qui avait.
Non, je sais pas, genre,
Non, mais
je me rappelle qu'il y avait eu un petit. Mais je me rappelle plus du.
En gros, je crois que la problématique du film, c'est il va tomber amoureux de Didier Bourdon et c'est pas bien, quoi. Parce que c'est un homme.
Non, c'est pas parce que c'est un homme, parce qu'il aime les femmes. Parce qu'il aime
les femmes.
Oui, il est attiré par les femmes et il se sent étrange. Non, mais je sais pas. Non, c'est juste qu'il est attiré par les femmes, donc ça lui fait bizarre d'être attiré par un homme. Oui, oui, non, mais honnêtement, vois le film. Il y a rien de. Non,
mais. Je sais pas,
je suis hétéro, mais bon, si on me dit il y a un homme, quoi, je vais pas faire. Oh,
non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire.
C'est pas ça.
T'es attiré par les femmes et tout d'un coup, ton corps t'attire vers les hommes, tu sais pas pourquoi. Voilà, c'est ça la problématique.
Bah, il se découvre les sexualités, peut-être.
Oui, oui,
en tout cas, ça le perturbe, mais c'est pas. Franchement, il va pas aller chercher trop de.
Non, là, faut pas chercher.
C'est lourd, mais c'est pas. C'est pas.
Je l'aurais bien pointé du coup si c'était
mais dans d'autres de ces films.
Non, là c'est pas bien. Par contre, j'ai une question pour Victor. Comment s'est passé ton interview avec Philippe Lachaud?
Très bien, c'était avant de voir le film.
Donc ça s'est bien passé.
J'avais peur qu'on ne pouvait pas me demander si j'avais vu le film et tout, mais non, mais après c'est vrai, enfin ce que dit Justin, effectivement, il a lu le manga, il est fan du manga, de l'animé, mais ça suffit pas à faire un film, effectivement, je suis d'accord. Et c'est quelqu'un de très sympathique, pas un bon réalisateur.
Philippe, si vous écoutez,
d'ailleurs, il y a un élément pour un puissage qu'on en avait déjà parlé. C'est un élément qui reprend du, par exemple, un élément qui reprend du manga, qui n'est pas dans l'animé, qu'ils n'avaient pas gardé dans l'animé. Car dans l'animé, il y a un running gag comme quoi Kaori Laura, elle sait pas tirer. Donc quand elle a un flingue à tir de travers, elle est nulle. Ça s'arrête là dans l'animé. Alors que dans le manga, il y a une explication pourquoi elle tire de travers, c'est parce que. Donc, c'est Ryo Saeba, lui a trafiqué son flingue parce qu'il veut pas qu'elle devienne une tueuse, il veut pas qu'elle devienne un vrai acteur de ce milieu, il veut qu'elle garde son innocence, qu'elle puisse quitter ce milieu quand elle le voudra. Et donc, c'est un élément qui reprend du manga et qu'il a mis dans le film. Et ça, c'est un élément de caractérisation quand même assez spécifique pour bien dire qu'il a compris le matériau dans le fond, peut-être dans la forme, il réussit pas tout le temps. Mais en tout cas, moi, je trouve sur. La caractérisation des deux personnages, leur relation, pour moi, ça fonctionne complètement. Après,
je discuter, en fait, la relation fonctionne bien.
Même il réussit même à placer une scène avec la fameuse Machu, qui est pas ridicule parce qu'il l'intègre, il l'inclut dans la scène, donc ça sort pas de nulle part non plus. Donc, honnêtement, bah, si on est attaché au personnage, la forme est discutable, c'est inégal. Mais voilà, au niveau du, il y a quand même une compréhension du matériau. C'est pas un film qu'on a envie de détester non plus, quoi. Voilà.
Très bien, on va maintenant parler de All Inclusive et de
qu'est-ce qu'on a fait encore au bon Dieu.
Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Mais on va rester sur les adaptations de manga et à peu près au Japon, vu qu'on va parler de Alita Battle Angel de Robert Rodriguez et peut-être un peu de James Cameron, quand même, on va en parler. Qui l'a vu, qui veut le présenter?
Moi j'ai pas vu, mais j'aime bien Rodriguez.
Je vais le
défendre.
Moi j'aime bien le défendre aussi.
Moi aussi j'aime bien Rodriguez.
Justin, tu nous présentes un peu cette intrigue, un peu labyrinthique.
Labyrinthique.
Donc c'est. Labyrinthique depuis quand c'est labyrinthique?
Ouais, pas trop. Hein.
Pas dans le film, quoi.
Ah,
mais grave,
je préfère Nicky Larson
à Alita.
Bah, non, j'ai bien vu en plus. Donc,
il y a Martin, pour en dire du mal. Non,
il y a moi aussi.
Oui, mais j'ai préféré Nicky Larson.
Moi, j'ai préféré Nicky Larson. Je suis désolée.
Je vais partir.
Vous avez préféré Nicky Larson?
Moi, j'ai préféré Nicky Larson.
Il comprend plus, Victor.
J'ai pas beaucoup aimé Alita non plus, on va en parler, mais peut-être.
Donc ça se passe dans un futur lointain, donc dans une cité futuriste, donc il y a Zalem, donc une espèce de cité aérienne pour les nantis, et puis il y a une cité en dessous qui est un peu une sorte de taudis
dans Métropolis,
qui est une espèce de favela, de ghetto, d'ailleurs d'autant plus avec Rodriguez qui est un peu plus latinisé dans le film. Et donc il y a un scientifique donc, qui trouve la carcasse d'un cyborg qui va récupérer, qui va plus ou moins rafistoler, donc Alita Gunn, et il s'avère que cyborg a des souvenirs, d'aptitudes assez guerrières d'un passé lointain, donc on va découvrir progressivement, narration fragmentée dans le film, et donc Et il y a d'autres personnes qui recherchent ce cyborg. Et donc, tout au long de l'intrigue, voilà, il va avoir une remontée de son passé. Elle va se sentir de plus en plus forte. Et donc, il y a un côté, sans trop en dire, il y a un côté, une première partie très réussie au niveau de la caractérisation de Alita. Les effets spéciaux, en tout cas pour elle, sont assez bluffants.
La mise en place de l'univers.
Et la mise en place de l'univers. Mais surtout, elle, parce qu'on avait un peu peur dans les bandes annonces avec les grands yeux et autres. Ça, on oublie complètement.
C'est ce qui fonctionne le mieux d'ailleurs.
Moi, je ne l'ai pas oublié, j'ai vu que ça pendant tout le film.
Ouais, c'est ce qui fonctionne le mieux dans le film, je trouve.
Non, moi j'ai trouvé ça le film assez navrant. Enfin, moi, c'est pour moi Alita, enfin, moi Gunman, hein, je préfère pas préciser, qui a été publié chez Glénat. C'est l'un des premiers mangas que j'ai suivi depuis sa parution. Et pour moi, c'était vraiment un choc parce que j'ai vraiment découvert le cyberpunk vraiment au travers de cette œuvre. Et
vu en bonne OAV aussi.
L'OAV, j'ai trouvé déjà assez médiocre. Hein. Il avait vraiment, c'était une espèce de synthétisation qui était quand même pas très réussie. L'animation était vraiment vite faite et pas terrible. Donc voilà. Ben voilà, pendant des années, on a entendu en effet que Cameron allait adapter tout ça. Puis bon, il a préféré partir sur Pandora et filmer des schtroumpfs dans l'espace. Non, bon, j'aime beaucoup Avatar.
Il avait acheté les droits en 99.
Ouais, c'est ça. 99, donc hein, c'est tout. Hein.
Ça devait être son film juste après Titanic. En fait.
Exactement.
C'est vrai
qu'il
a préféré faire Avatar et mettre de côté.
Voilà. Il a attendu en tout cas que les effets spéciaux se développent en tout cas pour pouvoir réussir le personnage, en tout cas pour le montrer à qui il le souhaitait dans sa vision. Voilà, le jour où il a annoncé que Rodriguez allait finalement reprendre le flambeau, pour moi, personnellement, ça a été vraiment un cauchemar. Et ça s'est fait que... Voilà,
il a arrêté de manger,
exactement, et ça a été vraiment...
Moi je trouve qu'avec on sent qu'il y a quand même Cameron derrière, c'est quand même plus rigoureux que d'autres Rodriguez.
C'est plus rigoureux dans le sens où quand Cameron lui a dit bon, écoute, tu vas pas faire la photo, tu vas pas le monter, tu vas pas le faire. Donc tu te dis bon bah quelque part, au moins il va avoir des vrais techniciens avec lui, ça a été déjà peut-être une bonne chose parce qu'il fait une très mauvaise photo, il sait pas monter et en termes de superviseur et d'effets spéciaux, il n'y a qu'à voir ce film, c'est quand même dégueulasse.
Avant donc... Spy Kids 2 pour l'époque, c'est vachement bien.
Non, c'est vachement bien, sérieusement. Moi je trouve ça en avant, quoi.
Bah, regardez Spy Kids 2, vous allez voir.
Si, j'ai vu un 2 et tout.
Pour l'époque, c'est vachement bien. Regardez-le maintenant et regardez-le.
Mais je l'ai vu au cinéma et déjà à l'époque, ça avait piqué les yeux, quoi. Donc voilà, c'était vraiment c'est de l'acide en plein visage, c'était vraiment c'est douloureux, quoi. Et là, comment dire, enfin, c'est plus du tout du cyberpunk dans le film, c'est vraiment du cyberbobo, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment, comment dire, le personnage d'Alita, enfin de Gali, hein, parce que c'est son vrai nom, est devenu vraiment une petite minette qui minote, quoi. Vraiment, c'est ça, quoi. C'est un personnage qui est vraiment rentré dans les canons américains, de vraiment la jeune frêle adolescente un peu naïve et
après,
tout ça.
Après, t'as un peu de mauvaise foi, parce que dans le manga... Il y a ce côté naïf où tu
l'as. Elle est naïve, mais par contre, comment dire, la relation, comment dire, avec Ido est complètement différente parce que dans le film, ils en font une espèce de fil de substitution, ce qui n'est pas du tout le cas, comment dire, dans le manga. Dans le manga, comment dire, enfin, c'est vraiment, elle joue une adulte amnésique avec un cran d'adolescente, mais en tout cas, voilà, elle sent qu'elle a perdu des choses et elle cherche vraiment à retrouver son identité.
Par exemple, la romance dans le manga, le côté un peu cucu naïf, tu l'as aussi dans le manga, beaucoup moins,
et surtout, comment dire, c'est une relation, comment dire, dans le manga qui a un sens unique parce qu'elle a un espèce de béguin pour Hugo, alors que, comment dire, Hugo dans le manga, il n'a qu'une seule idée en tête, c'était comment dire, de grimper, comment dire, à Zalem.
C'est une espèce de.
C'est le manga, le film, c'est le film.
Oui, mais je sais bien, mais l'adaptation, elle fonctionne pas. Il y a certaines choses, la dynamique n'est pas bonne.
Dans les grandes lignes, c'est pas très différent.
La dynamique des personnages n'est pas du tout pareil. J'ai vraiment, j'ai relou encore.
C'est une adaptation, mais au final, ça finit presque pareil.
Non, ça finit pas du tout presque pareil.
Quand même,
il meurt, mais bon, voilà. Mais après, c'est excusez-moi pour le spoiler,
mais
bon,
il y a des suites qui sont.
Je pense que c'est l'acteur le problème en fait.
Bah, l'acteur il a choisi parce qu'il ressemble à Rodriguez jeune, donc
il se voit dedans,
mais par contre, le mec il sait pas jouer quoi. Mais dans une télé-novela, personne l'engagerait quoi, le pauvre chéri, mais bon, c'est triste pour lui. Mais bon,
mais après,
une production à 170 millions,
tu vois, toi le film de. Parce que moi j'ai dû lire deux tomes, mais j'ai pas lu tout le manga. Et tu vois, comme beaucoup, tu vois par le prisme du manga. Mais en termes de spectacle, juste en termes de spectacle, de divertissement, moi je trouve que c'est un film, parce qu'il y a Cameron derrière, il n'y a pas que Rodriguez, et justement, comme disait, il y a des techniciens qui... Peut-être qu'il n'a pas géré à 100% du truc, tu sens que c'est plutôt bien maîtrisé, ça se voit.
Ouais, mais un effet spécial, c'est raté.
Non,
je suis d'accord. Il y a une telle incruste qui ne fonctionne pas, les décors, ils sont dégueulasses.
La grosse scène d'action.
Non, je suis pas d'accord.
La scène dans le bar, la grosse baston.
Allez, nul avec sa musique rock'n'roll à deux balles, et
ça,
c'est
pas
C'est plutôt bien filmé, c'est
quoi
impressionnant. Ah oui, moi je trouve ça.
Non, je trouve ça bien assez mal filmé. Enfin,
oui, moi je trouve ça efficace aussi.
Je trouve ça vraiment.
Il manque le génie de Cameron pour transcender, mais franchement, ça passe.
C'est lisible, ça va très vite, c'est arrivé à tous les mouvements des personnages.
Super mauvais.
Moi, le seul reproche que j'aurais sur le film.
Je suis sorti avec un a priori positif parce que j'ai eu cette scène-là, en plus du reste, plus tout le côté, je trouve qu'il installe vraiment bien l'univers. Je trouve que. On s'attache au personnage, on est impliqué dans le parcours du personnage.
Ah, du tout.
J'étais impliqué dans le parcours du personnage. Alors que c'est pas un grand film. Rodriguez sera jamais un très grand réalisateur.
Ça sera jamais un bon réalisateur.
Mais j'ai quand même de la sympathie pour lui parce que c'est pas un réalisateur cynique. C'est quelqu'un, je pense, qui est réellement.
Si, il est cynique. C'est un cinéaste. Sa filmographie, elle est ultra cynique.
Il y a une vraie passion pour un genre, la série B, pour le.
Il s'y est engouffré quand même.
Oui, mais il y a une passion derrière. C'est un vrai cinéphile aussi. On dit toujours qu'il est dans l'ombre de Tarantino, mais il y a le côté cinéphile de Tarantino, je trouve, qui traverse la filmographie de Rodriguez. Moi, alors, je suis pas fan de Rodriguez du tout. J'ai des films que j'aime pas du tout de lui, mais je trouve qu'on en fait trop par rapport à certains autres réalisateurs qui mériteraient plus.
Oui,
je trouve qu'on le descend un peu trop vite.
Après, il a des problèmes d'écriture, le film.
Oui, non, mais il a plein de problèmes d'écriture. C'est quelqu'un qui est réellement passionné.
Il n'y a pas que des problèmes d'écriture, il y a des gros problèmes de narration.
Mais en 2019, dans le divertissement américain, je vois pas de films qui lui sont infiniment supérieurs. Dans le sens où.
Pour l'instant, le début, enfin, une année de
2019,
je
crois pas. Non, mais 2019, je parle 2018.
Les autres films, je trouve pas le meilleur pour autant.
Non, mais je suis d'accord qu'il n'est pas très réussi. On a envie un petit peu de le défendre parce qu'il apporte quelque chose de différent par rapport au divertissement que tu vois actuellement.
Il y a un vrai esprit manga qui traverse le film.
Mais je trouve pas. C'est-à-dire que tout est très américanisé. Ils ont retrouvé, comment dire, des.
C'est très américanisé, mais dans la manière de spectacle de je sais pas le côté spectaculaire du manga, moi je le retrouve dans
spectaculaire d'un film de divertissement américain.
Ouais.
Il y a des séquences que tu vois pas dans
le
mec qui se fait découper en deux par la lame du truc, tu vois pas dans
le. Il y a un truc à l'ancienne, un côté à l'ancienne qui m'a bien plu.
Oui, moi j'aime bien aussi ça.
Non, mais
c'est le côté beauf de Rodriguez qui fait.
Non, mais l'univers, le problème c'est que l'univers est.
Ça se retrouve en fait.
Oui, d'accord.
L'univers est extrêmement aseptisé. Nicolas, l'univers est extrêmement aseptisé. C'est ça que.
La décharge,
elle est super propre, tout le monde vit là, tout le monde mange à sa faim.
Mais le problème c'est que moi je le sais dès le départ que ça va être comme ça quand je vais voir le film. Je sais que ça va être américanisé, que ça va être propre, ça va être.
Mais là, ce point-là, c'est quand même chaud quoi.
Et à partir du moment où ça sert à rien de rester devant deux heures de film, ah ouais, mais quand même, c'est un peu trop propre.
Nicolas.
Tu prends le spectacle comme il est, et moi, je trouve que qualitativement, par rapport à d'autres.
Mais tu fais des comparaisons, là, en fait.
Tu fais des comparaisons.
Non,
mais bien sûr,
comment tu veux que je compare au manga?
Par exemple.
J'ai pas lu le manga.
Regarde, il y a une scène qui est vraiment significative. C'est-à-dire que quand il emmène Gali, sur les toits pour montrer, la tour Zalem, au début, il fait regarde. Elle regarde en bas, elle fait ah, c'est joli. C'est censé une décharge. Elle fait waouh, c'est sympa. Ok, il fait bon vivre. Elle fait non, regarde là-haut. Ok, et à quel moment tu comprends dans cette scène qu'est-ce qui, le motif à aller là-haut. Ok. Dans le manga, après, t'es pas obligé de faire tout le background du personnage, parce que c'est compliqué avec son frère, machin, chose, qui se fait tuer par un bounty hunter parce qu'il a essayé d'aller en ballon jusqu'à Zalem. T'étais, en effet, t'es obligé de faire des raccourcis et tout ça. Mais là, tu comprends pas, ce qui motive le personnage d'Hugo d'aller là-haut, tu vois.
Oui, parce que tu as l'impression que Rodriguez montre la décharge, le monde du mal, comme quelque chose de trop propre.
Tu vois personne ne crever de faim, c'est super cool. C'est une vie sympa, il y a des droïdes en plus.
Mais en plus, le cœur du film, c'est plus la quête d'identité de Gali que... Après, c'est Hugo qui veut venir.
Son flashback, il apparaît de manière super conne, et en plus, son flashback est de manière super conne, et la scène, en plus, de bataille sur Mars, enfin sur la Lune, voilà, les batailles martiennes, c'est Moonraker, putain. Mais si, putain.
Oui, en plus, c'est bien Moonraker. Mais non, mais le gros problème du film, c'est la narration rushée, parce que chaque partie, ça pourrait donner un film en lui-même, la partie où elle est un peu Bounty Hunter, chasseuse de primes, on aimerait bien que ça dure un peu plus, on sent que c'est une partie du manga et ça leur a fait plaisir, ils l'ont mis, mais c'est trop court, il y a plein de parties comme ça dans le film.
Il y a une bonne chose qu'il en filme, hein, c'est la façon dont il a réussi à intégrer le motorball dedans.
Oui, mais le motorball, voilà. La scène du motorball, moi je la trouve vraiment bien.
Il n'y a pas l'enjeu, donc c'est ça le problème.
L'enjeu, c'est que tout le monde va la tuer et qu'il faut qu'elle ait... Après, oui, elle est rushée aussi, et la scène est tout de suite suivie par une poursuite dans la ville parce qu'elle doit sauver. Le problème, c'est que c'est vrai, si tu ne t'attaches pas à la relation qu'elle a avec Hugo, c'est vrai que les enjeux vont pas vraiment
la scène où elle donne son cœur.
Sur le papier, non, mais sur le papier, ça pouvait être bien, mais c'est mal.
C'est
une belle idée, mais
même le mec en face, quoi, il est là.
Oui, oui. Non, dans l'idée, moi, je trouve ça, c'est typique, c'est du Cameron, c'est du pur Cameron dans l'idée. Mais après, il s'est passé.
Le problème de cette scène, c'est que c'est un peu comme le reste du film, c'est rushé, en fait, la séquence est rushée. T'as pas l'implication, c'est quand même une grosse décision. Tu sépares de ton.
Bah non, on s'en fout, trois secondes,
ça se fait automatiquement. Tu vois, c'est genre.
Là, tu te dis juste, mais t'es con.
Là, c'est vrai que c'est un vrai problème.
D'ailleurs, le motorball avec tout ce contre elle, si on compare avec un film qui a le même genre de ça, c'est la fin de Speed Racer.
Mais moi, j'ai retrouvé un peu de ça.
Ouais, j'ai retrouvé de ça, mais on voit que Speed Racer, c'est autre chose.
C'est un autre niveau. C'est pas le même talent, mais je veux dire. Moi j'ai trouvé la scène, dans toutes les scènes un peu spectaculaires des blockbusters qui sont sortis toute l'année, c'est une des scènes qui m'a quand même le plus impressionné.
Parce que... Moi j'ai pas été impressionné, mais je me suis dit, ouais, c'est sympa.
Non, mais c'est efficace, moi je trouve que c'est pas
très bien. On vient de vous parler de Delta Battle Angel, donc plutôt Rodriguez que Cameron, apparemment, d'après ce débat. On va parler pour clôturer la partie sur le cinéma japonais d'une ressortie. On passe à tout à fait autre chose avec les funérailles des roses. Lila, est-ce que tu peux nous présenter
Oui, en effet. Un petit peu rude comme transition à les funérailles des roses. Parce que les funérailles des roses, donc là, c'est Matsumoto Toshio, 1969, Japon, donc nouvelle vague japonaise. Donc, pour le synopsis du film, qui justement, dans ce courant-là, a une importance relative, Les funérailles des roses, ça suit les aventures d'Eddie, qui travaille dans un bar à Tokyo en tant que homme travesti, femme transgenre. C'est pas vraiment un questionnement qui est abordé, approfondi par le film, mais c'est quelque chose qui est assez, finalement, représentatif du film en lui-même, qui brasse beaucoup de thématiques sur l'identité, sur la création aussi. Il y a un certain second degré par rapport à la création de film, par rapport à une position un peu arty, par le biais notamment d'un personnage dans le film qui est cette sorte de réalisateur qui fait des choses expérimentales mais qui mène à rien, ce qui est assez intéressant dans un film qui est lui-même expérimental. Mais c'est surtout sur sa forme, en fait, que le film se distingue. C'est il joue beaucoup avec les codes, il joue beaucoup avec donc que ce soit dans la forme du montage, vis-à-vis de la mise en scène, il y a un côté très ludique, un peu irrévérencieux. En même temps, voilà, il va brouiller les frontières des genres. Bah, bon, effectivement, avec ce personnage dédié, mais voilà, aussi avec le documentaire, tu vois, soit développé dessus.
Il y a un côté documentaire où il y a des scènes de rue, des micro-trottoirs où il interroge des gens à la volée dans le quartier un peu du Shinjuku sur leur opinion sur l'homosexualité, les gens qui se travestissent. Donc il y a une réflexion là-dessus, en même temps qu'il y a l'histoire qui se déroule, qui est Oedipe Roi. C'est une sorte de transposition d'Oedipe Roi dans le contemporain avec des transgenres. Donc il y a ce côté-là, et puis comme disait Lila, il y a côté montage qui déroute un peu, c'est-à-dire il y a des scènes fragmentées, donc on comprend le sens quasiment à la toute fin par moment, donc il y a un questionnement là-dessus, donc c'est assez intéressant, effectivement.
Oui, c'est beau, c'est bien. Kéfren, hein. C'est tout. C'est beau, c'est bien.
Oui. Ah, moi aussi, j'avais plein de trucs à dire.
Et c'est d'un studio qui... comment ça s'appelle le studio? C'est un studio japonais qui faisait des... t'es spécialisé pour aider un peu des réalisateurs de la nouvelle vague japonaise à justement faire des films un peu plus...
Non, mais en fait, la nouvelle vague japonaise vient des studios. La nouvelle vague japonaise, ce sont les studios qui ont impulsé...
Non, je parle de studio qui a produit ce film-là spécifiquement, c'est
oui,
un studio qui...
La nouvelle vague japonaise, c'est eux qui ont produit
les films de Wakamatsu à un moment...
Parce que, en fait, la démarche, c'était... plus c'était expérimental, mieux c'était, ils voulaient... je crois que c'est un comité de direction, c'est que des journalistes qui choisissaient les projets, donc eux, ils allaient vers les choses un peu avant-gardistes, un peu différente, donc du coup ça facilitait pour ce genre de projet de pouvoir se faire finalement. Je sais plus du nom du studio.
C'est Art Theater.
Oui, c'est ça.
Art Theater Guild. ATG.
ATG, c'est ça exactement.
Oui, donc il y a eu les films de Shima notamment qui ont été
produits. Donc c'était vraiment une démarche d'avoir des films un peu anticonformistes.
Mais effectivement, c'est vrai que là, après, ce sont des réalisateurs de studios qui ont quitté les studios.
Non, mais même à la base, la nouvelle vague japonaise, ce sont les studios qui ont pris des jeunes réalisateurs pour faire des films pour les jeunes. Et c'est ça qu'ils appellent la nouvelle vague japonaise à la base. Et après, les réalisateurs genre Oshima et tout, ils ont quitté pour faire leur profil.
Mmh. Oui, comme Imamura, Oshima, effectivement, qui venait des studios. Mais après, c'est vrai que là, on est vraiment dans du cinéma indépendant qui était en dehors
du studio. Parce que ATG, c'est
aussi la fin de la nouvelle vague 68.
Bon, on est encore dans les idéaux politiques révolutionnaires au Japon qui existent encore pendant 2 ans.
Mais la nouvelle vague japonaise a commencé en même temps, voire un tout petit peu avant la nouvelle vague française.
Absolument. Voilà. Avec le premier film d'Oshima.
Oui, exactement. Voilà.
Et du coup, j'ai écrit un dossier pour Tesson sur Final Rider.
D'accord.
Super. Merci.
C'était une anecdote. Donc il faudra qu'on parle plus longuement de l'histoire du cinéma japonais. Là, c'était pas un peu glissé comme ça en fin d'émission où on était plus passionné sur Alita, j'ai l'impression. Désolé.
De l'avoir vu en même temps.
Il a fait un dossier, il vient de dire qu'il est. Sur Tesson ou pour Tesson?
Pour Tesson.
Et nous allons maintenant parler de cinéma chinois.